Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à l'écoute de Transistor pour ce journal radiophonique amplifié de ce jeudi 10 janvier 2019, premier de l'année. On se retrouvera comme d'habitude pour aller recueillir l'information, vous la retransmettre, mixer, égaliser, monter et bien sûr amplifier. Alors on se retrouve pour une formule un petit peu raccourcie, il semblerait qu'il y en ait quelques-uns qui n'aient pas encore fini l'hibernation, mais on va quand même commencer avec une bonne dose d'actu, évidemment le journal pour commencer. Une revue de presse qui sera assurée par Arthur cette semaine. On continuera avec l'édito économique de Julien et puis on passera bien sûr à la culture avec le journal de la culture de Léa et Sarah. Et puis bien sûr, pour terminer, la chronique musicienne de Benoît et Maë. Mais c'est donc tout de suite parti pour une petite heure raccourcie d'amplifié et donc tout de suite le journal. Et on commence tout de suite par le national avec un petit point sur l'actualité tendue autour des dernières modes vestimentaires.
Tout à fait. Une participation en hausse pour l'acte 8 des Gilets jaunes par rapport aux semaines précédentes, comptabilisant 50 000 personnes dans la rue sur l'ensemble du territoire. Les enjeux liés aux Gilets jaunes n'ont pas faibli à l'aune des fêtes de fin d'année, continuant de rassembler face à un durcissement des mesures gouvernementales et surtout continuent à faire couler beaucoup d'encre. Des heurts avec la police ayant été beaucoup commentés politiquement après une altercation musclée entre un ancien boxeur et un CRS, débutant une bataille de cagnottes à la réception politique à géométrie variable. D'un côté, fustigeant la canette Lecci lancée pour couvrir les frais d'avocat du dit boxeur, de l'autre, un silence relatif sur celle lancée en soutien de la police. Pour autant, le gouvernement a sifflé la fin de partie et compte encore renforcer les effectifs de police mobilisés samedi prochain, tout en multipliant les arrestations préventives au motif d'organisation d'une manifestation sans déclaration.
Et maintenant, mon script m'annonce un point politique, mais qu'est-ce donc ?
Alors oui, passons maintenant à un petit point politique, puisqu'alors que Macron a du pain sur la planche avec l'organisation du débat national et la mise en place des trois grandes mesures annoncées pour 2019, à savoir assurance chômage, réforme de l'État et réforme de la loi de 1905, les partis commencent déjà à se préparer pour les élections européennes de mai prochain. Benoît Hamon a refusé hier d'établir une liste commune avec le Parti Socialiste tant que le PS restera attaché à un Parti Socialiste européen qu'il juge être le supplétif des conservateurs et dont il dénonce le désir de coopérer si besoin avec la droite européenne. Le fondateur du mouvement Génération souhaite, je cite, « une grande alliance de gauche humaniste, écologiste, féministe et européenne ». Reste à savoir si c'est encore possible. À droite touche maintenant, pour évoquer la décision de Thierry Mariani, ancien ministre des Transports sous Nicolas Sarkozy, de quitter les Républicains pour rejoindre la liste Rassemblement National et gonfler les rangs de Marine Le Pen, qui représente pour lui, je cite, « la seule véritable alternative ». Un transfert choc que l'on dit stratégique, mais que l'ex-ministre dit envisager depuis plusieurs années.
Et enfin, il sera question de la loi Philippe.
Tout à fait. L'intervention du Premier ministre Édouard Philippe sur le plateau de TF1 lundi soir a provoqué des vagues. Adoptant une posture d'autorité après un nouveau samedi marqué par des affrontements entre la police et les manifestants, celui-ci s'est dit prêt à faire voter une loi pour sanctionner ceux qui ne respectent pas l'obligation de déclaration, de permettre la possibilité de fouiller les passants autour d'un rassemblement qu'ils estiment causer un trouble à l'ordre public, ainsi que la création d'un nouveau délit consistant dans le fait de dissimuler son visage lors d'un rassemblement. Avec donc une peine envisagée d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Répondre à l'ultra-violence par l'ultra-sévérité, tel est le mot d'ordre donné par le gouvernement et une partie des ministres partisans de cette ligne de fermeté. Ceci s'inscrivant dans une vision globale du continuum de sécurité, selon les mots du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, ne se limitant pas seulement à la police et à la gendarmerie nationale.
Et après ce petit passage du côté de notre ami Christopher, on passe à l'international.
Avec encore donc l'international, avec Kim Jong-un a achevé jeudi donc une visite surprise de 4 jours en Chine, son principal soutien diplomatique et économique qui lui a réservé une nouvelle fois un accueil en grande pompe dans le cadre du Palais du Peuple à Pékin. Xi Jinping, de son côté, a appelé les Nord-Coréens et Américains à faire un pas l'un vers l'autre, soulignant qu'une rare chance historique s'offrait pour parvenir à un règlement politique dans la péninsule coréenne. Il s'est félicité des mesures positives prises par Pyongyang, qui connaît une détente historique. C'est à l'issue de cette visite que l'annonce d'un grand sommet qui pourrait être imminent entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, la visite prenant alors le tour symbolique d'une pression mise sur les États-Unis pour alléger les sanctions internationales à l'encontre de la Corée du Nord.
Et maintenant du côté de Madagascar.
Et oui, l'élection d'Andry Rajoelina à la tête de l'île malgache marque le passage du putsch militaire à une victoire électorale pour ce qui est devenu une figure politique de l'île. En 2009, ce dernier accède pour la première fois au pouvoir à 33 ans par des manifestations d'ampleur dans la capitale, Antananarivo, suivie d'un coup d'état militaire. L'armée le porte à la tête de la haute autorité de transition qui a remplacé le gouvernement de Marc Ravalomanana, contraint à l'exil. Dans un pays où la désillusion politique augmente au même rythme que l'abstention, Andry Rajoelina a mené une campagne dispendieuse à grands coups de distribution de t-shirts et de feux d'artifice, plus portés sur la forme que sur le fond, présentant un programme plus que flou pour les années à venir, avec une mesure que les experts considèrent comme phare, celle de la suppression du Sénat.
Et dernière nouvelle de ce sujet qui nous préoccupe depuis maintenant plus de 2 ans d'amplifier le Brexit, qu'en est-il ?
Et oui, puisqu'en Grande-Bretagne, alors pas d'élection, mais une première ministre qui a du souci à se faire. Le Parlement a en effet voté hier, mercredi 9 janvier, un amendement qui oblige Theresa May à présenter un plan B sous 3 jours en cas de rejet de l'accord de sortie qu'elle a négocié avec Bruxelles. L'amendement, déposé par le député conservateur anti-Brexit Dominic Grieve, précise que ce plan B sera amendable par les députés qui auront donc la possibilité de proposer, entre autres, un report du Brexit ou un nouveau référendum. Ce vote, reflet de la volonté du Parlement de reprendre la main sur un exécutif qui peine à faire accepter l'accord de sortie, fragilise Theresa May, qui pourra désormais difficilement menacer les députés d'appliquer un no-deal Brexit en cas de refus de son accord de sortie lors du vote du 15 janvier. Suspense donc, en attendant le vote pour ou contre l'accord de sortie, alors que May doit faire face à la fois à l'opposition des pro-européens et à celle des europhobes, pour qui l'accord proposé par May trahit le Brexit, en condamnant le Royaume-Uni à rester encore plusieurs années dans l'Union douanière européenne en cas d'absence d'accord sur la frontière irlandaise.
Et enfin, on traverse l'Atlantique avec quelques petits soucis de shutdown.
Et oui, c'est ça, puisqu'aux États-Unis, en revanche, on est bien loin d'un accord, puisque le pays est paralysé depuis le 29 décembre par un shutdown budgétaire, c'est-à-dire le gel d'une partie du gouvernement fédéral. Les musées fédéraux, la NASA et plusieurs ministères sont fermés, les services médicaux ne sont plus financés et 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique. En cause, un conflit sur le budget 2019. Les démocrates, en effet, désormais majoritaires à la Chambre des représentants, refusent d'allouer les 5 milliards de dollars réclamés par Trump pour la construction d'un mur à la frontière mexicaine. Un refus qui ne plaît pas au président, qui évoque une crise sécuritaire à régler d'urgence et s'appuie notamment sur des chiffres publiés hier. 50 000 migrants illégaux ont été arrêtés aux frontières en décembre, contre 13 000 en moyenne pour l'année 2017. Dans une allocution télévisée diffusée hier soir, le président s'est dit prêt à prolonger le shutdown des mois, voire des années, s'il n'obtient pas les 5 milliards de dollars réclamés, alors que les démocrates, menés par Nancy Pelosi, récemment élue présidente de la Chambre des représentants, cherchent à voter d'abord les budgets non polémiques dans l'espoir de débloquer une situation devenue problématique.
Merci beaucoup Benoît et Marie pour ce journal et tout de suite on continue avec l'actualité. L'actualité qui nous amène en République démocratique du Congo me semble-t-il, puisque ce sera l'objet de ton billet d'humeur d'ailleurs Marie.
Oui c'est ça, bonsoir Rémi, puisque pour ce billet d'ailleurs j'ai choisi de prendre des risques et pour la première fois je vous parle d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques heures seulement et dont l'issue est encore extrêmement incertaine. Alors on l'a appris ce matin, l'opposant Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur d'une élection présidentielle historique en République démocratique du Congo. Alors face à cette information, j'ai 3 questions. Qui est Tshisekedi ? Pourquoi cette élection est-elle historique ? Et pourquoi tant de contestations ? Et je crois que j'ai aussi 5 minutes pour vous livrer des réponses.
Hop là, j'attrape mon script. Avant de parler de la victoire de Tshisekedi, il faudrait peut-être savoir qui étaient ses concurrents, Marie.
Et oui, en lice pour succéder au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis l'assassinat de son père et prédécesseur en 2001, il y avait 21 candidats, dont 3 susceptibles de l'emporter. Le premier, c'est Emmanuel Ramazani Shadary, ex-ministre de l'Intérieur et dauphin de Kabila, mais visé par des sanctions européennes pour son rôle dans la répression de manifestations. Le second, c'est Martin Fayulu, candidat de l'opposition, député et homme d'affaires. Et le troisième, eh bien, c'est Félix Tshisekedi, qui succède à son père comme principale figure de l'opposition à la tête de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Une figure de l'opposition, certes, mais qui s'est montrée favorable à un rapprochement avec Kabila, qu'il considère désormais comme un partenaire de l'alternance démocratique.
Et je crois que ni les campagnes ni les élections ne se sont vraiment déroulées dans le calme.
Exactement. D'abord parce que l'élection a déjà été repoussée 3 fois, officiellement en raison de manque de moyens et malgré les contestations. Ensuite, parce qu'elle a eu lieu dans une situation chaotique. Plusieurs personnes ont été tuées et les deux opposants Fayulu et Tshisekedi ont refusé de signer l'acte pour la paix qui les engageait à rejeter toute violence, sous prétexte que le texte ne prenait pas en compte leur demande sur une gestion plus juste des bulletins de vote.
Je sens qu'on en arrive à la prochaine question. Pourquoi donc une consultation ?
Pourquoi une contestation ?
Contestation,
oui.
Oulala, pardon, décidément, question... consultation, c'est en France.
J'écris mal, c'est pour ça. Question importante en effet, car si la Commission électorale nationale indépendante, la CENI de la République démocratique du Congo, a déclaré Tshisekedi vainqueur avec 38% des voix, ce résultat est contredit. D'abord par l'opposant Martin Fayulu, qui dénonce une tentative de putsch électoral. Ensuite par l'Église du Congo, qui a déclaré son décompte contraire au résultat proclamé par la Commission. Et enfin par la Belgique et par la France, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ayant évoqué un manque de conformité des résultats et déclaré avoir saisi le Conseil de sécurité. En République démocratique du Congo, les vaincus peuvent encore saisir le Conseil constitutionnel qui aurait alors 10 jours pour mener son enquête sur la validité des résultats. Mais dans tous les cas, les résultats définitifs ne seront annoncés que le 15 janvier.
Mais alors, outre les contestations, quels sont peut-être les vrais enjeux de cette élection et pourquoi parler d'une élection historique, Marie ?
Eh bien, d'abord parce que ces élections sont censées être le premier transfert démocratique de pouvoir, puisque pour la première fois, le chef de l'État de RDC a accepté de quitter le pouvoir par lui-même et non sous la contrainte des armes. Ensuite, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition est proclamé vainqueur. On observera donc, si Tshisekedi est élu, une alternance à la tête du pouvoir, puisque le président de l'opposition gouvernera avec la coalition menée par l'ancien président Kabila.
Un gouvernement qui, je crois, ne sera peut-être pas évident.
C'est ça, puisqu'outre les particularités de l'élection, il faut aussi comprendre à quel défi devra faire face le prochain chef d'État. Puisque diriger la RDC, deuxième plus grand pays d'Afrique après l'Algérie, c'est en effet plusieurs enjeux à négocier. Et pour vous en convaincre, je vous propose un petit tour d'horizon de la République démocratique du Congo.
Un bref retour sur l'histoire, peut-être, de ce pays d'abord.
Alors oui, bonne idée. Le Congo est gouverné par plusieurs royaumes et empires, toujours, avant de devenir une colonie belge en 1908 et jusqu'en 1960, date de proclamation de la République du Congo. Après des années chaotiques, marquées par la sécession de provinces et l'assassinat du président, le général Mobutu prend le pouvoir. Il réprime violemment les rebelles et renomme le pays République du Zaïre, avant d'être renversé par des troupes rebelles soutenues par plusieurs États étrangers lors de la première guerre du Congo.
On est donc
en 97, année où est proclamée la Seconde République du Congo,
entre autres, et
où le président Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir. Un an plus tard, éclate la désastreuse Deuxième Guerre du Congo, qui oppose plusieurs pays africains dans ce qui deviendra la plus grande guerre entre États de l'histoire de l'Afrique contemporaine. Laurent Désiré Kabila est assassiné et son fils Joseph Kabila lui succède et restera au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, bien qu'accusé de corruption et d'accaparement des ressources.
Et alors maintenant, on en est où du coup ?
Eh bien maintenant, le prochain président devra faire face à des défis nombreux. Je vous propose de mentionner 3 d'entre eux. Premier défi, mettre en place une politique économique efficace. Le pays comporte en effet d'immenses réserves de ressources naturelles stratégiques, comme les diamants, le cuivre ou le cobalt, utilisés pour les batteries de smartphones et de voitures notamment. Des ressources très convoitées, dont l'extraction met en danger l'environnement et la souveraineté du pays, qui fait face aux pressions diplomatiques occidentales. Le second défi, c'est de faire face à la crise humanitaire que traverse un pays dans lequel 87% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et qui connaît, malgré ses ressources, un retard important en termes d'éducation et de santé. Et enfin, j'ai bientôt fini, troisième défi, gérer les conflits et la violence dans un pays marqué dans le passé par des guerres destructrices, et aujourd'hui par l'action de plusieurs groupes armés, rebelles islamistes, groupes armés M23 ou milices locales d'autodéfense dans les provinces du Kasaï notamment, des groupes qui s'appuient également sur l'exploitation illégale des ressources naturelles.
Une situation plus que chaotique donc sur laquelle on pourra revenir.
C'est ça, oui. Pour l'instant, reste à voir quel tournant prendra la première réelle élection démocratique d'un pays dont le président aura, c'est certain, du pain sur la planche.
Merci beaucoup, Marie, pour ce billet. D'ailleurs, on suivra bien sûr la situation du côté de la République démocratique du Congo.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et maintenant, je me tourne vers toi, Arthur. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est toi qui remplaces ce soir Mathilde pour sa revue de presse.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Et on la commence avec...
Avec une nouvelle année. Et oui, 2019 sera une année décisive, a dit notre cher président Macron lors de ses vœux du 31 décembre aux Français. Décisive, en effet, cette année 2019 le sera. C'est même un euphémisme. On pourrait même dire explosive au vu des réformes que le gouvernement veut engager. Chômage, retraite et fonctions publiques. 2019 sera l'année de la justice, l'année où le couperet tombera. Le peuple a soif de justice, le même besoin de rendre justice émerge dans la société. Une justice sociale est réclamée par les Gilets jaunes qui n'en finissent pas de défrayer la chronique. Le Figaro indique sur son site qu'un rassemblement au centre de la France, à Bourges, prend de l'ampleur sur les groupes de discussion des Gilets jaunes. L'appel a été relayé par certaines personnalités du mouvement, très suivi. Des mesures de sécurité ont déjà été prises par la municipalité. L'acte 9 des Gilets jaunes pourrait revêtir ainsi un caractère original. Plus de 12 000 internautes ont exprimé leur intérêt sur la page de l'événement, auquel 2 400 personnes se sont inscrites. Ce centre de la France se veut avant tout géographique. Le lieu de rendez-vous est la ville de Bourges, dans le Cher. Ce choix vise à permettre à tous d'être à distance égale en partance des grandes villes, annonce la page de l'événement. Alors que les Gilets jaunes jouent les sans-culottes, le grand débat national annoncé par Macron prend de plus en plus des allures de convocation des États généraux. Ces discussions de citoyens dans les communes aux allures de cahiers de doléances doivent démarrer mardi 15 janvier. Malgré le flou qui demeure sur sa finalité et son organisation après la démission de Chantal Jouanneau, nous serons prêts, a assuré le Premier ministre Édouard Philippe à l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée. Cependant, quel pilote après la défection de Chantal Jouanneau ? Questionne Ouest France. Contrairement à ce qu'avait annoncé le gouvernement mardi soir, le nom du nouveau pilote n'a pas encore été dévoilé. Il le sera lundi. Alors, où en sont les préparatifs ? Avant son départ, Chantal Jouanneau a certifié que le débat sera opérationnel pour le 15 janvier. Il durera jusqu'à la mi-mars. Pour l'heure, seul un numéro de téléphone est ouvert, le 3630, le numéro du Père Noël. Non, c'est une blague. Vous pouvez toujours contacter le 0800 97 11 11, ce que j'ai fait, et attendre trois quarts d'heure qu'une voix automatique vous annonce que le correspondant n'a pas donné suite à votre appel. Bon, normalement, un site internet fonctionnera à partir du 15 janvier à l'adresse granddebat.fr. C'est là, notamment, que seront listés les lieux et les dates des réunions. Ces discussions porteront sur quatre thèmes. Transition écologique, organisation des services publics, fiscalité et questions démocratiques. Il n'y aura aucun déballage sur l'IVG, la peine de mort, le mariage pour tous. Ils appartiennent à nos valeurs communes, a répété cet après-midi Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Encore heureux, mais après tout, pourquoi pas faire un débat sur un changement de république ? Plusieurs maires et citoyens se disent prêts à organiser des réunions, affirme le député Jean-Michel Jacques, référent en Bretagne du Grand Débat pour le groupe parlementaire La République En Marche. Selon Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MENEF, les entreprises sont également prêtes à jouer le jeu. Parfait, on n'attend plus que les trois coups et le lever de rideau pour découvrir cette tragicomédie. Mais les ministres soutiennent-ils vraiment cette consultation ? Demande le journal Marianne. Certains comme Mounir Majoubi, Marlène Schiappa et François de Rugy sont enthousiastes. D'autres comme Gérald Darmanin et Bruno Le Maire sont plus réservés. Le risque, c'est d'être accueilli avec du goudron et des plumes, confie un ministre au journal Le Parisien. Après, il faut dire qu'ils l'auront cherché, hein, il ne faut pas se plaindre. Bon, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à traverser la rue pour trouver un autre boulot, comme disait un premier de cordée. Messieurs, dames, prenez place, le spectacle va commencer. Quelle triste mascarade politique. Mais ne vous inquiétez pas, justice sera rendue. En 2019, le couperet tombera et le gouvernement devra répondre de ses actes. C'est d'ailleurs la démarche de l'affaire du siècle. Le recours juridique contre l'État, porté par 4 ONG, Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace et Oxfam, a dépassé le cap des 2 millions de soutiens. Ce jeudi à 17h, la pétition en ligne réunissait ainsi 2 653 signatures. Le 18 décembre dernier, ces 4 ONG ont lancé une action en justice climatique contre l'État français, afin de démontrer que sa politique est largement insuffisante pour protéger les citoyens du changement climatique. La première étape consistait à envoyer une demande préalable, sous le format d'une lettre au gouvernement, expliquant les carences de l'État et lui demandant d'agir. C'est ce qui a été fait le 18 décembre dernier. Si la réponse n'est pas satisfaisante ou si l'État ne répond pas d'ici le 19 février prochain, les ONG saisiront au printemps le tribunal administratif d'un recours en carence fautive. Cette mobilisation traduit la préoccupation croissante des citoyens sur les questions climatiques et environnementales, alors que l'urgence est manifeste et que les impacts sont déjà visibles en France et dans le monde, analysent les ONG dans un communiqué. Face à cette prise de conscience, elles estiment que la réponse du gouvernement n'est pas à la hauteur. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a en effet critiqué la méthode juridique en expliquant que ce n'est pas dans un tribunal qu'on va faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Bon, d'accord François, mais ce n'est pas non plus ton inaction au ministère qui va y contribuer. Le site Reporter indique que les ONG préparent également des rendez-vous de mobilisation pour les citoyens signataires dans les jours à venir. Vous voyez, 2019 sera l'année où le couperet tombera. Et en particulier pour un homme, Carlos Ghosn, l'AFP nous apprend que le syndicat Sud de Renault va saisir la justice pour savoir si leur PDG ne s'est pas enrichi sur le dos des salariés. L'Union syndicale Sud du groupe Renault annonce dans un communiqué publié mercredi son intention de saisir la justice pour réclamer la transparence dans l'affaire qui vise Carlos Ghosn au Japon. Le syndicat dénonce la chape de plomb qui s'est abattue sur le service communication du constructeur automobile et sur son conseil d'administration qui s'enlise. Selon Sud, qui évoque une politique de blocage des salaires et des conditions de travail dégradées depuis plusieurs années en lien avec les méthodes de management du PDG et de son équipe. Sud annonce avoir demandé à son avocat inscrit au barreau de Paris, Maître Maisonneuve, d'examiner la possibilité de saisir le procureur de la République afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ne vous inquiétez donc pas, 2019 sera l'année où justice sera rendue. Le couperet tombera et les tribunaux condamneront l'impunité des dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques ou religieux. En effet, au procès Barbarin qui s'est ouvert lundi à Lyon, le parquet sonne l'heure du droit, écrit Pascal Robert Diard dans Le Monde. Jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle de mineurs, le cardinal a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Depuis le début du procès, la procureure de la République est restée silencieuse. Pas un mot durant les débats, pas une question aux prévenus ou aux parties civiles. Son réquisitoire tombe, sans vraiment de surprise. Le ministère public ne poursuivra pas le cardinal Barbarin et les 5 autres prévenus. Les parties civiles et les victimes s'y attendaient, mais la déception est là. Les avocats des victimes contestent l'argument de la prescription. Le procès s'achève aujourd'hui. Au moins, il aura eu le mérite de briser l'omerta dans l'Église catholique. Un jour, le couperet tombera, peut-être cette année, car 2019 sera celle de la justice sociale, politique et environnementale. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux de révolte.
Eh bien, dis donc, moi j'entends surtout parler de 2019, année des keufs, ça promet quelque chose d'assez explosif. Si on fait se rencontrer les deux, mais après tout, est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on souhaite ?
Le JR1, sur Transistor, une radio conçue comme son propre fondement, en direct à l'ENS de Lyon, jusqu'à 21h.
Allez, merci Alain pour ce petit indicatif et tout de suite, c'est au tour de Julien de nous parler de l'actualité économique qui se cache dans les vœux d'Emmanuel Macron.
Il y a de ces petites phrases anodines, dites avec légèreté, sobriété, calme et discrétion. Dites en passant, comme ça, parfois sorties du chapeau, parfois improvisées sur le moment, parfois presque inaudibles, mais qui pourtant ont un sens plus large que les lettres qui les composent, qui ont un sens plus profond que le noir de l'encre avec laquelle elles ont été écrites, et qui méritent que quelqu'un s'y attarde un peu, le temps d'un billet économique par exemple. Vous avez certainement écouté les vœux d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas quelles phrases ont retenu votre attention, mais il en est une qui m'a particulièrement marqué. Le capitalisme ultralibéral et financier, trop souvent guidé par le court terme et l'avidité de quelques-uns, va vers sa fin. Cette phrase est sans aucun doute des plus mystérieuses, d'autant plus que le président de la République française se garde bien de l'expliciter entièrement.
Mais alors, diantre, qu'a bien pu vouloir dire Emmanuel Macron ? Je dirais plus encore, cette phrase bien qu'affirmative, pourrait-elle être vraie ?
Eh bien, c'est à ces questions que nous essaierons de répondre dans ce billet économique. Pour essayer de percer la pensée qui se cache derrière ces mots prononcés aux dernières heures de 2018, nous pouvons nous référer à deux discours du chef de l'État qui semblent être dans la même veine. Le 25 septembre 2018, Emmanuel Macron a prononcé un discours à l'occasion de la 73e Assemblée Générale de l'ONU, dans laquelle il fustige les vieilles recettes économiques, à la fois symboles et structures du capitalisme financier qui, dit-il à New York, ont montré toutes leurs limites et ont conduit, je cite, au renforcement des inégalités dans nos sociétés et à cette cassure que nous sommes en train de vivre. Cette assertion fait écho à son discours prononcé en janvier 2018 à l'occasion du Forum économique de Davos, où le chef de l'État français remet en cause les logiques économiques dominantes. On a fait croire que la croissance a concerné tout le monde. Ça n'est pas vrai parce que cette croissance, elle est structurellement de moins en moins juste, a-t-il dit par exemple. On y voit un peu plus clair désormais. Le capitalisme financier, par sa logique court-termiste d'accumulation, a conduit à un renforcement des inégalités et à des risques systémiques qui sont aujourd'hui rejetés par la majeure partie des citoyens et des décideurs.
Alors, on y voit un petit peu plus clair, mais je pense que nos auditeurs partageront mon interrogation. Tu parles de capitalisme financier comme si c'était une phase du capitalisme. Je pensais que le capitalisme était un tout entier, mais il me semble, si j'en crois tes mots, qu'il porte des masques différents au fil du temps.
Effectivement, l'on peut penser le capitalisme comme se déclinant en différentes phases. Pour expliquer ce qu'est le capitalisme financier, je m'appuie sur le texte « Capitalisme, les mutations d'un système de pouvoir » de Michel Aglietta et de l'ouvrage d'Ève Capello et de Luc Boltanski, « Le nouvel esprit du capitalisme ». Le capitalisme, pour exister, a besoin d'un esprit, d'une morale qui guide les acteurs économiques, et pas que, dans la voie capitaliste. Or, cet esprit évolue, en particulier en s'appropriant les critiques qui sont faites à ce système économique, à ce système de pensée, lui permettant alors de muter, de subsister. En histoire économique, il existe donc différentes phases du capitalisme qui se sont succédées chronologiquement. Ainsi, le capitalisme financier ou financiarisé, est apparu dans les années 1980 et s'est substitué au capitalisme contractualisé qui s'étend de 1950 à 1972.
Donc, par exemple, le capitalisme contractualisé serait caractérisé par ces années dites glorieuses où négociation collective, protection sociale, régulation de la finance étaient de mise.
Tout juste.
Je m'en souviens.
Or, de 1971 à 1980, la crise inflationniste mondiale a profondément modifié l'esprit du capitalisme contractualisé. Le capitalisme financier ou financiarisé est alors né et se caractérise notamment par la dérégulation de la finance, l'ouverture à outrance des marchés, la primauté accordée à la valeur actionnariale et au recours à l'endettement pour la maximiser. Tout comme le capitalisme contractualisé en 1971, le capitalisme financier est entré en crise en 2008 et a alors révélé toutes ses limites. Les logiques d'enrichissement de court terme ne sont plus efficaces économiquement et sont tenues en grande partie pour responsables du niveau des inégalités des richesses mondiales. Et l'instabilité des marchés crée constamment la menace d'une crise généralisée du système, devenue désormais l'épée de Damoclès moderne et impacte négativement l'économie et endette les États. Il est devenu presque évident que le château de cartes va bientôt s'effondrer. Voilà pourquoi Emmanuel Macron, peut dire que le capitalisme ultralibéral et financier va vers sa fin. Il reste maintenant à savoir où, quand et comment. Dans l'immédiat, trois dossiers qui symbolisent les dérives du capitalisme dénoncés par le chef de l'État vont bientôt se rappeler au bon souvenir du gouvernement. L'usine Ford de Blanquefort, avec ses 800 salariés, les attaques spéculatives qui font chuter Casino et les excès des nouveaux actionnaires américains de Pernod Ricard. Emmanuel Macron a dit « il reste maintenant à faire ». Espérons qu'il arrive à démentir la phrase de Bardamu, héros du magnifique voyage au bout de la nuit de Céline. « Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinions. » Ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine.
Merci beaucoup, Julien, pour ce billet économique qui éclaire effectivement un petit peu la complexité de la pensée exprimée dans ces vœux présidentiels qu'évidemment nous avons goulûment avalés. Pour le réveillon, et tout de suite on en termine avec l'actu, on saute les pieds dans le tapis, on s'est tellement bien pris les pieds dedans qu'on en a profité par se prendre aussi les pieds dans le rendu à rendre pour ce soir, mais promis, on est de retour d'ici pas trop longtemps, enfin au moins quoi, et on passe tout de suite à la culture. Bonsoir à toutes les deux, Léa et Sarah.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir à tous, des Stadsni Nove Rock.
Si, ce qui, pas en italien, signifie bonne année.
Merci Léa pour la traduction, quelle interprète de génie. Pour bien commencer l'année, j'aimerais vous annoncer.
Ok.
Alors, petit souci
c'est
technique
un petit
avec
changement
un
de
changement
micro.
De micro intempestif, mais tout va bien, nous sommes parfaitement rodés, nous sommes en 2019 et Transistor a 10
tout va
ans.
Bien.
Et voilà, et donc je reprends. Pour bien commencer l'année, nous changerons de micro et j'aimerais surtout vous annoncer une excellente nouvelle. Depuis mardi, la bibliothèque municipale de la Part-Dieu vous propose de savourer le bonheur d'être bobo. Et oui, cette espèce en voie de non-extinction pratique ce que l'on appelle le goût ou le bon goût. Les bobos, à ne surtout pas confondre avec leur cousin éloigné bonobo, aiment les bons légumes bio et locaux de la MAP, le bon café moulu à la maison et torréfié sur place, le bon vieux pull de mamie ou de guérissol. Bref, vous l'entendez, chez le bobo, c'est comme chez le cochon, il n'y a que du bon. Et justement, en guise de bonne résolution, le département de musique de la BML a décidé de vous offrir de la bonne musique, ou du moins du bon son. Vous n'enverrez plus vos potes au perché à la Croix-Rousse, poutres apparentes et plantes carnivores en mezzanine, possesseurs d'une jolie collection de vinyles, car vous aussi, vous pourrez vous la péter et savourer des notes plus savoureuses sur une platine que sur YouTube. Et ce, sans avoir à dépenser une fortune. C'est pas cool ça ?
Sarah, je trouve ça sympa que la BML se mette à la mode vintage, mais comment fait-on si on veut s'y mettre et que l'on n'a pas de platine ?
Ah bah aucun souci. Votre merveilleuse BML a pensé à tout. Une dizaine de platines vinyles portables est à la disposition des malheureux qui n'ont reçu que des oranges et du pain sec à Noël. Ou qui n'ont pas pensé à commander une platine au lutin. Enfin, je crois qu'à ce jour, le nombre de vinyles empruntables s'élève à un petit millier. Mais si l'on calcule bien, vous n'aurez jamais le temps de tous les écouter en une année. Donc il y a la marge et il y en a pour tous les goûts.
Tout est bon dans le bon son.
Merci Léa pour cette merveilleuse phrase de conclusion. Léa, c'est bien beau la musique, mais ça ne profite pas aux sourds. As-tu autre chose à nous conseiller ?
Toujours, Sarah. Mais avant, une petite question. Si tu avais le choix entre m'écouter faire ma chronique et me donner la réplique et aller boire une bière en cafette, que ferais-tu ? Tu as 10 secondes pour répondre et sache que ton choix va orienter le reste de ce journal de la culture.
Je choisirais la bière sans hésiter.
Eh bien, heureusement pour moi, tu ne l'as pas vraiment et tu vas devoir m'écouter parler de séries, de choix, de réalité et de fiction.
Quelle torture !
Ça faisait plus d'un an qu'on l'attendait. La saison 5 de Black Mirror, série créée par Charlie Brooker et diffusée depuis 2016 sur Netflix, déployant un univers dystopique dans lequel, je résume à grands traits, sont interrogés les usages que nous faisons de ces nouvelles technologies qui prolifèrent. Eh bien, cette saison 5 n'est toujours pas sortie, mais le 28 décembre, c'est un film interactif qui a été diffusé, Bandersnatch. Peut-on imaginer meilleure mise en abîme des problématiques ayant parcouru les saisons précédentes ? Sans doute pas. Une question centrale dans ce film, celle des choix que nous pouvons faire véritablement dans notre rapport à ces technologies. Je m'explique. Lorsque l'on regarde un film, nous avons, il me semble, deux types de choix à faire. Le premier, incroyablement difficile, est le choix du film. Pour ceux qui franchissent ce premier écueil avec succès et regardent effectivement le film choisi, s'ajoutent alors des choix interprétatifs. Pour schématiser, la fin d'Inception est-elle porteuse d'espoir ou pas ? Ces choix interprétatifs orientent bien sûr notre vision du film, mais ils n'influencent pas le déroulement de son intrigue. Or, avec ce film interactif, c'est ici à nous de tirer les fils de la narration. Nous sommes acteurs aussi, et pas seulement spectateurs, puisque ce sont nos choix qui détermineront l'avancée du film. Choix cornéliens entre Frosties et autres céréales notamment, mais aussi parfois encore plus lourds de conséquences.
Je ne savais pas que c'était possible.
Et je l'ignorais aussi jusqu'à une période très récente. Ça te rappelle peut-être le principe des livres dont on est le héros, ou celui des jeux vidéo. Mais transposé dans l'univers de Black Mirror, il prend une autre dimension, grâce à un jeu de miroir justement assez vertigineux. Car ici, l'interactivité concerne non seulement la forme, mais aussi le fond de l'épisode. Et c'est alors cette fois non plus au miroir, mais au spectateur de réfléchir, projeté à Londres en 1984 dans une atmosphère inquiétante. Un jeune programmateur, assez mal dans sa peau, tente d'adapter sous la forme d'un jeu vidéo interactif Bandersnatch, un roman de fantasy à choix multiples dont l'auteur a sombré dans une folie meurtrière qui l'a conduit, notamment, à décapiter sa femme. Il se lance corps et âme dans cette entreprise et là, tout commence à déraper car le réel commence à se distordre. À mesure que l'on fait des mauvais choix qui nous font revenir à un point antérieur de l'intrigue, le personnage évoque des sensations de déjà-vu, a l'impression de n'être pas vraiment maître de ses choix ni de lui-même. à peu près au même moment, celui où on revit la même scène pour la troisième fois à cause d'un choix malheureux, on se met aussi à douter en tant que spectateur. Ai-je vraiment le choix ? Est-ce vraiment moi qui décide du déroulement de l'intrigue ? Ou ne fais-je que suivre un schéma prédéterminé dans une narration qui est par avance complètement verrouillée ? Et là, on regarde l'heure. On se rend compte que ça fait une heure et demie que l'on est devant son écran, que l'on n'a pas beaucoup fait avancer l'intrigue, que si ça continue, on va y passer la nuit et on élargit la réflexion. Passant de la question « Est-ce moi qui contrôle l'épisode ou l'épisode qui me contrôle ?» à « Est-ce moi qui profite de mon abonnement Netflix ou cette plateforme qui envahit ma vie ?» Puis on continue quand même l'épisode parce que bon, il y a du suspense.
Je reconnais bien là ta force de caractère, Léa.
Et pour ceux qui n'aiment ni la musique ni les séries, n'aurais-tu pas une bonne nouvelle à leur annoncer à eux aussi, quelque chose qui puisse régaler leurs pupilles ?
Je ne sais pas si les pupilles des sourds se régaleront autant que nos oreilles et nos gambettes à la Dark 80s Party du Sonic ce samedi, mais j'ai cru voir une invitation à un vernissage passer dans nos mails de l'ENS. Je me suis dit, chouette, pas une opération de grutage. Non que j'ai une dent contre les grues, surtout lorsqu'elles portent des barésilles, mais un vernissage est synonyme de bonne société. Et de dîner économisé. Un verre gratuit, Léa, ça ne se refuse pas.
C'est pas faux. Mais Sarah, où est ce vernissage et que présente-t-il ?
Il paraît que physique et photo se marient bien. Dans l'esprit de Maxime Cluzel, du moins, cette rencontre offre un nouvel aperçu de la grande ville. L'œil sensible de ce physicien déambule de quartier en quartier et capture en gros plan des détails de la vie quotidienne ou utilise la lumière pour dessiner les formes inaperçues habituellement de la ville. Sensitized, c'est donc l'exposition hommage à cet ancien élève de l'école qui fut chercheur au CNRS, en physique théorique, by the way. Justement, ce sont ses recherches en physique qui l'ont mené à New York. The Big Apple, si elle a terrifié les petits James, aura émerveillé Cluzel. Et après une formation à The School of International Center of Photography, le voilà doté d'un nouvel objectif, qui promet.
Oui, sur le site de l'école, où vous trouverez toutes ces informations, la photo sélectionnée est plutôt jolie. Un visage bien découpé dans le rétroviseur, une route qui fuit dans le flou. Ça rappelle pas mal de photos, mais la simplicité de ce cliché pourrait toucher les plus sceptiques parmi vous.
Au pire, ça pourrait vous évoquer les vacances, hélas, fini pour le moment. Prendre le volant, s'échapper de cet hiver infernal, de ces cours dont on ne veut plus entendre parler alors même qu'ils n'ont pas commencé. Enfin, le vernissage aura lieu vendredi 18 janvier à 18h30 dans la galerie Artemisia.
Des vernissages, c'est bien, mais il y a aussi des finissages. Sarah, tu as un mot à nous dire là-dessus, non ?
Tout à fait, Léa, merci de me le rappeler. Un autre verre gratuit en perspective à l'Institut Goethe cette fois-ci. Que s'y passe-t-il ? Eh bien, espérons que personne parmi nous ne rêve de folâtrer nu comme un petit indien dans la prairie, car c'est encore dans un univers urbain que Claude Horsmann nous invite à la flânerie. Coincé entre deux chaises, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, cet artiste interroge écriture et dessin, signes et espaces. Destination, c'est donc destination ailleurs. Un ailleurs pas si loin, en fait, puisqu'il s'agit aussi de regarder l'espace quotidien sous une autre focale. De quoi rendre le familier étranger ? Bon, on en a déjà bien soupé, me direz-vous. Mais ce que propose Claude Horsmann, artiste contemporain, est davantage une exploration nouvelle qu'une redite. Il pratique essentiellement le dessin sans en épuiser l'intérêt ni la richesse. Les encres vous noient sous l'immensité de leur tracé ou bien se dissimulent avec humilité sur leur support de polyester. Polyester et quelques papiers se mêlent à des reliefs de pierre. Livres, estampes, béton, photos, tous ces éléments se combinent et donnent à voir un autre regard sur la ville et sur les liens entre dessin et langage.
L'exposition est gratuite, elle se tiendra jusqu'au 14 février, date à laquelle, bien sûr, vous écouterez le direct de Transistor, et son finissage aura lieu à ce moment-là, à 19h.
Oui, et ce sera en présence de l'artiste, suivi d'une présentation de la performance Ein Hungerkünstler avec Stéphane Lemercier, d'après un texte de Kafka. Décidément, entre le procès de Lupa à Mulhouse et le Kafkaf des gorges enrouées, on en entend du Kafka. À propos, tant qu'on parle de Tchèque, j'aimerais vous rappeler que jeudi prochain, le Ciné-Club des Salopettes organise la projection des Petites Marguerites. Avec ce film aux allures psychédéliques et dédié à ceux qui s'indignent des salades piétinées, si ma mémoire est bonne, la réalisatrice Viera Khetilova signe un joli pied de nez à l'oppression soviétique. Un petit bijou à ne pas manquer, alors rendez-vous jeudi 17 janvier à 20h45 à l'Aquarium Ciné-Café.
Et pour continuer dans la veine cinématographique, je signale que le festival Télérama au Zola à Villeurbanne commence la veille, mercredi 16 janvier. Une belle occasion de voir les longs métrages de l'année passée pour ceux qui les auront ratés. Au programme, Phantom Threads, Burning, Amanda, Plaire, Aimer et Courir Vite, Une Affaire de Famille, Leto, En Liberté, Nos Batailles, La Mort de Staline, Girl, L'Île aux Chiens, Une Pluie Sans Fin, Cold War, The Rider et, en avant-première, Nos Vies Formidables.
Merci Léa, pas mal de films en perspective, mais pour les Parisiens ou les détenteurs d'une carte TGV Max, si ce programme ne vous dit rien, faufilez-vous au ciné-club de l'ENS d'Ulm. Et pourquoi ? Tout simplement parce que mardi 15 janvier à 20h30, pas très précise, débutera la projection d'Azur et Asmar en présence de Michel Oslo.
Oh, alors aucune excuse, envahissez les salles noires des Ulmites et ne dites pas « je peux pas, j'ai poney », s'il vous plaît.
Mais moi Léa, je peux pas, j'ai yoga.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
Merci beaucoup Léa et Sarah, tout un tas de films qui ont par ailleurs été abondamment critiqués sur une autre émission de notre chaîne et on vous invite bien sûr à aller réécouter tout ça pour faire une petite idée. Mais tout de suite on passe du cinéma à la musique, on vous retrouve Maë et Benoît pour la musicienne.
Bonsoir. Alors, d'abord la petite blague, comme toujours.
Comme toujours.
Pourquoi Verdi et Gounod ne s'entendaient pas ?
Parce que pendant que l'un Othello, l'autre l'Ave Maria.
Ou je vais dire des trucs simples. I need somebody.
Entre deux petits hoquets d'après les fêtes, il fallait choisir un album. Le problème, c'est que la période de Noël est plutôt aride en termes de sorties. On fait des découvertes, mais on ne se rappelle pas d'une sombre artiste que Tonton Jacques a conseillé au réveillon, à moitié avachi devant son rouge. Du coup, j'ai cherché. Longtemps. Et j'ai fini par dénicher dans mes rayons un disque sorti au mois d'octobre, le 26 précisément, pardon. Black Holes de The Blue Stones. Petit groupe de garage canadien issu de l'Ontario, les compères Tarek Jaffar et Justin Tessier se forment en 2011 et mettront donc 4 ans pour sortir leur premier album après avoir signé chez Entertainment One et leur premier single, Black Holes Solid Ground. L'album, produit par nul autre que le pape du rock indé canadien Ian Burton, mêle à la fois des influences des Black Keys, d'acid jazz ou encore de certaines productions de Jay-Z, créant un mélange détonnant de répertoires classiques de blues et de touches sonores plus modernes dans leur exécution. Tantôt très carrées dans leur construction comme pour Black Holes, les compositions s'autorisent quelques râles ralentissements de tempo, allant jusqu'à proposer quelques élans psychés dans un entraînement chaotique de garage. Toujours sur la route, à l'affiche de festival aux côtés de Muse ou encore de Queen of the Stone Age, à la maroquinerie de Paris en novembre dernier, on espère que ces petits gars iront loin et repasseront prochainement, toujours, par nos contrées pour nous emmener le temps d'un live dans leur petit univers musical.
Ce soir, je vous parle road trip et musique, composition et voyage électro-rêveur. Je vous dis train, Russie, transsibérien et vous me dites...
Vodka ?
Tissaline, bien sûr, le jeune compositeur qui en 2015 avait composé l'excellent album Transsibérian, avec mon super accent anglais, à bord du train mythique en puisant son inspiration dans les rails infinis et dans les chants ethniques ou chamans croisés sur sa route. Et bien ce jeune homme, plein de talent après les petits gars de Benoît, William Rezé est de nouveau parti en voyage.
Où est-ce qu'il est allé ?
C'est en Argentine que fin 2018, il est parti en exil dans sa roulotte chromée à énergie solaire.
Hipster, un peu.
Thank you.
The Road, c'est le nom de son nouvel album sorti en ce début d'année. Voilà qui devrait plaire à Benoît.
Oui.
C'est sur la route donc que Tissaline, le loup de Tasmanie.
Point culture G.
Tissaline, synonyme loup marsupial ou loup de Tasmanie ou tigre de Tasmanie.
Oh, d'accord.
C'est donc sur la route que le loup de Tasmanie réveille à nouveau son génie, jouant avec les sons récoltés sur son chemin, quelques voix, un solo de saxophone enregistré près d'une falaise et surtout les paysages désertiques, les visages, la langue comme inspiration. Un mois de nomadisme et c'est encore un super album que William Rezé nous pond dans une atmosphère éthérée, un brin exotique et surtout incroyablement puissante. Enfin, calme et puissante. De toute façon, le calme n'est-il pas par essence le puissant, plus puissant que le bruit ? Le bruit n'est-il pas toujours moins fort que le silence ?
Mais...
Musique, Félix.
Si no tengo mi guitarra, hermano, yo sé que no soy nada.
Dans cet album, comme dans Transsibérienne sorti en 2015, Tillacine mixe avec virtuosité les mélodies, les rythmes qu'il rencontre dans son périple sud-américain et nous rappelle que l'électro-intelligent, si j'ose dire, que l'électro qui sait se poser sans s'imposer se marie avec tout instrument, toute musique. Tillacine met en valeur mieux que quiconque, ou aussi bien que les meilleurs, la richesse d'un genre avec lequel il nous réconcilie.
Vous écoutiez le journal radiophonique amplifié de Transistor, mais avant de se quitter, un dernier petit mot, Maïk, tu veux rajouter ?
Oui, en fait, il est saxophoniste de base, du coup c'est bien lui qui joue en ce moment du saxophone.
Incroyable. Le journal radiophonique, donc une émission coordonnée par Rémi Cerda avec cette semaine Marie Dounia, Arthur Guérin, Turc, Léa Burgassar, Andrea Maï Burla. Et bien sûr, le petit Bebe, on remercie Félix Barancy en régie qui a été assisté de Maë. On fait également un coucou à Mathilde que vous,
coucou, sur, Mathilde.
Vous languissez de son animation de la dernière fois, mais promis, elle revient très très vite, elle est juste à côté en studio. Et on se retrouve bien dans 2 semaines pour un nouvel amplifié. D'ici là, amusez-vous bien pour cette nouvelle année 2019.